Les plumes sur RCN, présenté par Mona.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Rouillère pour son recueil de nouvelles « L'univers des sens » publié aux éditions Rebeline et Benoît Fourchard pour son roman « Les baskets du Père Noël » publié aux éditions du Jasmin. Avec nous également John Bullitt qui nous fera la lecture de sa nouvelle « Oxygène ». Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, nous allons commencer avec Nathalie Rouillère. Alors Nathalie, « L'univers des sens » est un recueil de 14 nouvelles. Quel est le sens du titre ? Si je puis me permettre.
Disons que justement, comme dans l'univers, c'est varié. Voilà, il n'y a pas seulement les sens, les cinq sens auxquels on pense, mais aussi des jeux de mots sur, qui utilisent sens. Voilà, je me suis amusée, on va dire.
Et oui. Sur la quatrième de couverture, vous précisez « Ne restez pas enfermés dans la marque essence, roulez, roulez à contresens, réinventez vos connaissances ». D'essence à indécence, d'adolescence à sénescence, de turgescence à recrudescence, de récipiscence à nitescence, de fluorescence à munificence, d'obsolescence à renaissance, tourner et tourner dans la valse des sens, quand les sens crient, la langue s'affole. Alors pour nos éditeurs, déjà, vous voulez bien nous expliquer ce que c'est que la définition de marque essence ?
Alors ça, j'aurais dû le prévoir parce que je m'en souviens plus, mais bon, c'est pas grave. Alors il me semble que c'était par rapport aux feuilles
qui
se flétrissent, voilà, en automne. Voilà, c'est le nom que ça porte, tout à fait.
D'accord. Alors, comme vous l'avez compris, tous les titres de vos nouvelles se terminent par le son « ans ». Alors, c'est le titre qui a inspiré le thème de vos récits ou vous avez déjà écrit vos textes et le titre est venu après ?
Oui, le titre est venu après parce qu'en fait, au départ, on avait déjà travaillé sur des nouvelles sur les sens. Donc, c'était assez commun pour moi, mais finalement, les sens, il n'y en a que cinq. Donc, je ne voulais pas tourner autour de ça tout le temps. Et du coup, je me suis dit, on va chercher des mots dans lesquels sens aura un sens. Donc, voilà.
D'accord. Et il y a quelques fois aussi, dans plusieurs de vos nouvelles, notamment au début, il y a sens dessous qui revient régulièrement. Comme
oui,
un leitmotiv, c'est pas toujours...
Oui, parce qu'en fait, elles avaient fait partie d'un recueil de nouvelles qu'on avait fait avec Benoît Gauthier il y a une paire d'années. Recueil de nouvelles qu'on n'a plus en stock. Et donc, j'ai repris mes nouvelles pour me lancer dans celui-là. Voilà.
D'accord. Donc, c'était voulu, mais pour une autre
voilà,
cause.
Le titre du recueil, c'était « Sans dessus, dessous ».
D'accord.
Avec « sans », mais pris dans tous les sens, justement, dans toutes les écritures, surtout. S-A-N-G, C-E-N-T, etc. Donc, ça avait été... Mais on avait fait un recueil à trois mains. Il y avait cinq nouvelles de chacun de nous. Et comme le recueil, on ne le vend plus, j'ai repris mes cinq nouvelles. Et je suis repartie de là. Alors, je les ai relues, je les ai retravaillées, et j'en ai ajouté d'autres.
Voilà. D'accord. Et vous avez changé le titre.
Ah bah oui, du coup. D'ailleurs, le sang dessus dessous, je ne sais pas s'il est dans tous.
Non, dans les... il y en a cinq, je pense.
Il y en a cinq, je l'ai laissé. Alors, je les ai laissés tous.
Alors, à vous lire, on sent que vous aimez jouer avec les mots et leur sens. Cela vous demande beaucoup de travail ou bien cela vous vient spontanément ?
Ah, c'est assez spontané, je m'amuse. Alors, je fais toujours quelques recherches. D'abord, j'ai cherché des mots en sens qui pouvaient avoir du sens pour moi, justement. Et donc, oui, parce que nitescence ou minificence, ce n'est pas des mots qu'on utilise pour la plupart.
Oui, bien sûr.
J'ai fait d'abord une liste, après j'ai bien cherché les définitions et les idées me sont venues assez facilement après.
D'accord. Voilà. Alors, vos nouvelles sont plutôt éclectiques. Qu'est-ce qui vous inspire ?
Oh bah tout, il n'y a pas de... J'aime bien... Alors ce que j'aime bien dans les nouvelles, c'est que ça change complètement du polar. Et que je peux me laisser porter par mon envie, que ce soit l'humour, le cynisme ou l'amour, ou même des choses un peu plus sulfureuses. Je trouve que c'est sympa.
Oui, oui.
Ça permet vraiment de se laisser porter par autre chose que dans le polar. Je suis astreinte à garder le même style, etc.
Oui, bien sûr, et puis une certaine cohérence pour que ça...
Voilà, c'est ça. Ah, c'est beaucoup plus de travail dans un polar que dans des nouvelles.
Oui, bien sûr.
C'est un peu ma récré, la nouvelle. Quand j'ai une idée, je la note. Après, il faut une dizaine de minutes pour la mettre en page, mais il faut la laisser de côté, puis la reprendre plusieurs fois. Donc c'est souvent comme ça. J'en ai d'avance, et puis quand ça me prend, je les relis, je les retravaille. Il faut la chute, en fait. Souvent, de nouvelles, ça vient de la chute qui est, tiens, ça peut être rigolo d'associer deux choses. Et puis, Donc je cherche rarement, ça vient assez tout seul, quoi, en fait.
D'accord. Et vous avez déjà plusieurs idées dans votre besace ?
Ah bah oui, j'en ai dans mon ordi comme ça, j'ai pas mal de débuts ou de fins ou de milieux qu'il faut que je mette en concrètement en, sous forme de nouvelles, quoi, c'est tout. Mais, mm-hmm. Mais oui, je note quand ça me vient, mais je la fais pas forcément tout de suite.
D'accord. Bon, alors pour donner une idée à nos auditeurs, vous voulez bien nous lire votre nouvelle Recrudescence ?
Oui. Alors j'ai pris celle-là parce que c'est une des plus courtes. Et puis j'avais bien aimé les recherches que j'avais découvertes là-dessus. Alors je ne vous en dis pas plus. Recrudescence. Le général en chef, Pediculus Capitis, dirige les opérations depuis la pointe. Il place une de ses 6 pattes crochues en visière pour mieux apprécier l'évolution de la situation. Bien que très lente, les vagues successives de soldats sortent de leurs abris. Une bonne centaine. Ils ont juste le temps de prendre des forces et commencent à se nourrir. Lui, le commandant suprême des armées, a choisi cette terre d'asile et, en bon militaire, il suit le déroulement de cette conquête depuis 3 semaines. Une catastrophe biologique a entraîné la destruction de sa dernière colonie. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. Il ne s'avouera pourtant jamais vaincu. Il sait qu'il gagnera cette nouvelle guerre et que leur progéniture profitera un temps de ce nouvel Eldorado. Seulement un temps. Une société hématophage doit souvent changer de territoire pour survivre. Il a fallu d'abord envoyer un premier bataillon de colonisateurs pour préparer le terrain. Toujours des femelles. Elles ont pour mission de construire des capsules de survie pour chaque futur soldat. Chacune pouvant en bâtir 4 à 10 par jour. Ces abris de couleur caramel restaient indécelables aux yeux des colonisés. En revanche, dès qu'ils se vident de leurs habitants, ils blanchissent, les rendant beaucoup plus visibles. Il faut alors agir vite. En tout cas, la réussite d'une colonisation a toujours reposé sur la fécondité et le travail discret des femelles. Chaque alvéole a été solidement fixée à des racines juste au-dessus du sol, grâce à une sécrétion produite par l'individu femelle, le sémen. Chaque œuf, ainsi constitué, contient sa descendance. Quelques reproducteurs les ont accompagnés, leur tâche exclusive étant de procréer. Leur espèce hautement évoluée a doté les mâles de 2 paires de testicules, faisant d'eux d'inépuisables amants, une race de conquérants. Pediculus Capitis sourit en se remémorant ses années de jeune militaire. Il lui était arrivé de féconder jusqu'à 18 femelles à la suite et sans repos. Aujourd'hui, il commande et ses 2 paires de testicules ne lui sont plus d'une grande utilité. Il revient sur la situation immédiate. Les soldats sont prêts, ils ont mué 3 fois avant d'atteindre leur taille adulte et de pouvoir passer à l'action. Pourvus d'un corps assez long, brun ou grisâtre, ils se déplacent facilement dans l'épaisse végétation à l'aide de leurs 6 pattes. Les rôles sont bien définis. De cette nouvelle descendance, les mâles à l'abdomen pointu vont surtout se reproduire afin d'assurer la pérennité de leur espèce. Les femelles, dont l'abdomen se termine par 2 lobes postérieurs, poursuivront leur œuvre de reproduction. Plus ils seront nombreux, plus ils résisteront. Les colonisés auront du mal à se débarrasser d'eux. Satisfait du déroulement des opérations, le général se détend. La faim le tenaille, il a mérité un bon repas. Il descend rapidement de son promontoire en s'aidant de ses pattes crochues. De son rostre, surmonté de 2 courtes antennes, sort une longue trompe qu'il enfonce dans le sol. Il se met alors à sucer un liquide rougeâtre avec délectation. Son propre corps, d'abord aplati, se met à enfler comme une outre, prenant la même teinte que sa nourriture. Après 30 minutes, Capitis, repu, enroule sa trompe rétractile en poussant un soupir de bonheur. Un sommeil réparateur commence à le gagner lorsque la végétation s'agite violemment autour de lui. Des trombes d'eau s'abattent sur la colonie. Habitué au changement climatique, le commandant s'agrippe à une racine, un ouragan certainement. Au bout d'un certain moment, les pluies cessent. Pourtant, une inquiétude soudaine le tenaille et un goût amer lui emplit la bouche. Il a beau refermer tous ses orifices, la menace biologique est bien là. Il y a déjà échappé. Pourquoi pas cette fois encore ? Il devine vite qu'il ne peut rien contre la propagation du poison qui s'insinue dans tous ses pores. Il comprend aussi que tous ses congénères subissent le même sort, la mort, lente. Au bout de 15 minutes, les crochets de ses pattes s'ouvrent doucement et son corps mort, encore rouge et gonflé de nourriture, disparaît dans une pluie diluvienne. Nu comme un verre dans la baignoire, Benjamin, la tête penchée en arrière, commence à chigner. « C'est long, maman, j'ai mal au cou !»« Oui, je termine de rincer et c'est bon. Comme je te l'ai dit, une seule application, tu n'en auras plus. »« Tu en es sûre ?» demande la grande sœur incrédule en passant sa tête par la porte de la salle de bain. « Oui, Sonia, cette fois, c'est les produits miracles. » Sa fille entre et se saisit d'un flacon blanc et bleu avant de lire à voix haute. « 100% d'activité pédiculicide et lenticide. In vivo après 15 minutes de contact. Le résultat est définitif, assure sa mère. Ils seront tous éliminés. « C'est quoi ?» dit maman, demande Benjamin. « Tu me montreras ?»« Des poux, mon chéri, explique-t-elle en soulevant les mèches mouillées. Des poux ! Il y en avait au moins 100 en dessus, dessous. Une vraie invasion. »
Est-ce que dans votre nouvelle, vous avez un texte de prédilection et pourquoi ? Un que vous préférez ?
Ah, oh, ça, c'est toujours les questions pièges. J'ai toujours du mal à dire.
C'est vrai ?
Voilà, parce qu'au moment où je l'écris, c'est toujours ma préférée. C'est comme les romans. Au moment où je les écris, c'est toujours mes préférés. Parce qu'on est dedans, parce que... Et puis après, on passe à autre chose. Donc moi, je trouve que c'est difficile de dire ce que je préfère. Ça restera toujours le premier d'eux.
D'accord.
Je pense. Parce que le premier bébé qu'on a mis au monde, on s'en souvient plus que les autres. Hélas,
c'est dur pour les suivants,
mais c'est souvent comme ça.
Alors, on voit apparaître dans votre recueil Satan, démons, vampires et sorciers. Vous aimez vous faire peur ou nous faire peur ?
Alors, moi, je suis une grande trouillarde, donc j'adore avoir peur, mais toujours dans des limites, voilà.
Oui, c'est pas trop sanguinolent.
Non,
c'est
non,
pas
non,
trop...
voilà, c'est ça. C'est plus le côté doute. J'aime bien tout ce qui est doute, parce que je trouve que finalement, ça fait plus peur encore quand on doute, parce qu'on ne sait pas, que quand on voit les choses.
Voilà. Ça faisait penser, je me suis dit, bon, les Vosgiennes, ça faisait penser à quelques légendes vosgiennes, quelques vieux contes.
Oh, mais j'adore les légendes à cause de ça, parce que on dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu, donc il y a forcément eu quelque chose, mais on le détourne et on laisse aller son imaginaire.
Alors, vous aimez le fantastique, puisque vous avez déjà publié plusieurs romans policiers fantastiques. Qu'est-ce qui vous attire dans cet univers ?
Ben justement, c'est le doute. Alors, moi, je dis souvent, je suis athée, je ne crois en rien. En l'homme, c'est déjà pas mal. Mais en fait, quand on n'a pas vraiment de croyance, on doute de tout. Donc finalement, pourquoi ce ne serait pas aussi bien les dieux grecs qui sont au-dessus, qui nous dirigent encore, que je ne sais quel dieu ailleurs, ou qu'il n'y en ait pas du tout. Donc finalement, on doute tout le temps.
D'accord. C'est vrai que bon. Alors, vous avez écrit également de nombreux autres romans policiers, plus classiques, on va dire. Hein. Vous avez, une préférence ? Pour l'un ou pour l'autre genre ? Plutôt policier fantastique ou plutôt policier classique ?
C'est pas tout à fait le même travail, mais c'est vrai que je prends plus mon pied dans le policier fantastique. Parce qu'il y a ce côté fantastique à intégrer, qui est toujours un peu un challenge. Parce que justement, le fantastique, c'est difficile à décrire. Il y a ce côté un peu complexe que dans le policier bateau, on a des indices, on a telle chose, même s'il y a du suspense parce qu'on se pose des questions, qu'on n'a pas toutes les réponses, il n'y a pas ce côté qui peut faire peur ou donner accès à un autre monde qui fait qu'on doute.
Mais vous en avez écrit moins.
Oui, du coup j'en ai écrit moins parce que je suis assez rapidement partie dans le fantastique en fait.
D'accord. Alors, quels sont vos projets, d'autres policiers de la série Arkham ou de la série Jolène ?
Un polar pour Rebelline avec Jolène. Là, voilà,
avec Jolène,
je suis sur des recherches.
Oui. Alors, Jolène, c'est une héroïne, votre héroïne principale.
Oui, alors, capitaine de police. Alors, au départ, elle était lieutenant, mais au bout de 3 ans d'enquête, elle a été promue capitaine. Donc, c'est la petite Vosgienne, une trentaine d'années, qui n'a pas froid aux yeux, mais qui se pose beaucoup de questions parce qu'elle est un petit peu hors norme, elle est en marge, elle a eu son bac très tôt. Ses parents étaient profs, l'a poussée, mais non, elle voulait être dans la police et elle se fait peur parce qu'elle comprend facilement les psychopathes et tous ces gens perturbés. Elle arrive facilement à comprendre ou à ressentir et ça lui fait peur parfois, donc elle est un petit peu particulière.
La série Arkham, c'est tout à fait différent, votre héroïne est... À l'opposé un peu de Zoleg.
Alors oui, à Cam, c'est je fonce et je discute après, donc c'est pas tout à fait le même genre. Oui, je pense que à Cam, c'était plus mon contraire, alors que Jolène aurait plus me ressemblerait plus quand j'avais l'âge là, quoi.
D'accord. Alors est-ce qu'il doute, Nathalie?
Qui, à Cam?
À Cam.
Rarement, ah, rarement, oui. Mais elle trouve toujours des réponses pour ne pas douter.
Mmh. Puis elle est des, je dirais,
et pourtant, elle se laisse prendre par le fantastique facilement.
Oui, oui,
elle se laisse entraîner parce que, bon, ce qui compte, c'est la recherche de la vérité. Mmh. Voilà, c'est ce qui passe avant tout et elle est prête à tout pour ça, même à croire à des choses dont elle ne croit pas forcément.
Mmh. Voilà. C'est une fonceuse. En plus, elle est pas policière, elle est détective privée.
Alors, elle est détective privée, mais bon, on apprend dans le premier roman qu'elle était policière avant.
Oui, oui, voilà. Bien sûr. Mmh. Mais c'est une fonceuse, une bagarreuse.
Oui, oui, oui. Elle a pas peur de dire merde quand il y a besoin ou quand elle trouve que c'est nécessaire de s'opposer aux autres et puis de décider sans demander l'avis des autres. Quoi. Elle fonce, oui.
Donc vous avez une tendresse égale pour vos deux personnes.
Oui, parce qu'elle fait tout ce que je fais pas moi, donc j'aime bien la mettre dans des situations que moi je voudrais surtout pas vivre. Mm-hmm. Alors que bon, même si Jolène prend des risques, c'est plus calme, plus mesuré, plus voilà.
D'accord. Eh ben merci beaucoup. Alors nous revenons après Diane Dufresne et Yves Duteil qui nous interprètent La langue de chez nous.
C'est une langue belle, avec des mots super, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique, le parfum des airs, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une rame. Qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle, aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières. Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux. Parfois même au torrent qui charrie du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux.
C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une ville de France au nord d'un continent. Sorti dans un étau, mais pourtant si fécond, enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan, elle a jeté les pans par-dessus l'Atlantique, elle a quitté son lit pour un autre terroir, et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs, nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout pour imposer ses mots jusque dans les collèges et qu'on y parle encore la langue de chez nous.
C'est une langue belle à qui sait la défendre. Elle offre le trésor de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre. Et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une âme et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie.
Les Plumes sur RCN, Mona.
Nous sommes toujours avec Nathalie Rouillère, venue nous présenter son recueil de nouvelles L'Univers des Sens, publié aux éditions Rebeline, et Benoît Fourchard, venu nous présenter son roman Les Baskets du Père Noël, publié aux éditions Du Jasmin. Alors avant d'aborder le roman de Benoît, John Bullitt va nous faire la lecture de sa nouvelle Oxygène, avec la collaboration de Benoît, je crois.
Tout à fait, tout à fait.
Tout à fait improvisé.
Voilà.
Cent fois je l'ai fait ce truc. En purée, 100 fois. Avec Sergueï comme noyé ou moi faisant le noyé. 100 fois. Alors je vais y arriver. Y a pas de raison, c'est comme à l'entraînement. Oui, mais aujourd'hui, c'est pas de l'entraînement. De toute la force de mes palmes, je nage vers le tuyau d'évacuation. Sergueï est là, quasiment inerte entre mes mains, quelques soubresauts me prouvant qu'il était seulement encore un peu en vie. Respire calmement, Vladimir, calmement. Tu sais que stressé, tu consommes un peu plus en oxygène. Et le peu qu'il te reste dans ta bonbonne, me dirait mon instructeur. Mais, justement, la bonbonne. Comment est-ce possible qu'il n'y ait pas eu les habituelles bonbonnes de secours pleines dans l'armoire sous la sous-marine? C'est la procédure pourtant depuis 3 ans que dure ce chantier dans le port. Vraiment indispensable pour pouvoir remonter à la surface. Après 5 heures de travail, au fond d'une carcasse d'acier à souder, à découper ces immenses tôles. Impossible d'ailleurs de remonter, de sortir par l'eau du chantier, c'est bouché. Oui, la consommation de nos bouteilles principales étant incertaine, il nous faut donc ces bouteilles de secours, mais même à l'entraînement, on n'a pas prévu la noyade, plus le manque de bonbonnes d'oxygène de secours et le retour inévitable par le boyau. Je vais devoir, comme à chaque fois, décrocher de mon dos nos réservoirs d'oxygène qui ne passent pas dans celui-ci. Un conduit très étroit, 10 mètres de long, qui mène à la chambre de décompression. Et puis aujourd'hui, tiré en plus derrière moi mon pote, Sergueï. Concentre-toi, Vladimir, arrête de penser au futur, tu perds de l'énergie inutilement, insisterait mon instructeur. Il a raison. Du calme, Vladimir, du calme, dis-je. Enfin j'y suis. Je suis arrivé à l'entrée du conduit, tirant mon noyé par le torse après l'avoir délesté de ces 2 grosses bouteilles. Faire vite à présent, allez. C'est peut-être déjà une bonne minute que je l'ai vu se débattre, étouffé dans l'eau claire du bassin, le temps que j'arrive à sa hauteur. Accroche-toi mon ami, mon meilleur ami, mon binôme pour le travail, la vie, mon frangin, mon poteau, accroche-toi, je suis là. Je sais, que je consomme un peu moins que lui, mais malgré ça, il me reste que 3 minutes de vie devant moi. Le témoin d'oxygène de ma bouteille vient de passer dans le rouge. Il m'en faudra au moins encore 2, rien que pour passer dans le boyau. C'est faisable, mais comment le faire passer dans ce conduit avec mes grosses bouteilles qui passent pas sur mon dos? Je dois d'habitude enlever et pousser devant ou derrière moi. Ah oui, c'est ça. Derrière moi, mais suis-je bête? C'est ça qu'il faut faire. Pousser mes bouteilles devant, tirer mon Sergueï par les cheveux, ses grands et ses beaux cheveux blonds de séducteur. Certes, c'est un anti-exercice, hein, interdit sur le manuel de secours, noyé, déconseillé pour les soins de beauté des cheveux, mais à cet instant, on n'en a rien à foutre du manuel. J'arrache le masque, lui baisse sa capuche de plongée, attrape sa tignasse, et je m'enfonce dans le conduit sans avoir écrasé avant le bouton de la sirène d'alerte. La sonnerie retentit dans le boyau. Plus qu'une petite minute, m'indique mon cadran. Vite, vite. La lumière jaillit dans le boyau à notre passage. Merci les détecteurs. Ah, je sais, j'étais champion de nage palmé à mon université à 20 ans. Je sème encore tout le monde aujourd'hui sous l'eau. Car je suis fluide. Comme le dit ma petite femme chérie, fluide, mais là, plus heurté, tu meurs. J'avance pas avec mon convoi de la mort. Un escargot suivi d'une limace. En plus, je produis un raffut de tous les diables avec mes bouteilles, les cognant contre les parois métalliques tout le long du parcours. Et tout ça sans compter la sirène d'alarme. Par contre, Les cheveux de Sergueï me sont bien utiles. Ils sont comme une corde. Une corde d'un pendu au bout duquel j'aperçois ses pauvres yeux exorbités, sa face pâle et blanche. Tiens le coup, frérot. Tiens le coup, on y est. Je dévisse le sas, fais passer tout mon petit monde à l'intérieur, écrase le bouton de décompression, j'en ai terminé pour moi avec l'oxygène. Plus d'air dans ma bouteille, plus d'air. Ah, sur cette dernière lampée jusqu'à que l'eau soit chassée au dehors. Ah, de l'air. Ah, sauvé. Allez, vite. Passez dans le vestiaire, enlevez les palmes, mon masque. Tirez Sergueï derrière moi, l'allonger. Position de sécurité, vite, vite, vite. Le défibrillateur est toujours là, heureusement dans son coffret écarlate. Allez, mise en position sur le torse. Et un et deux, envoyez la sauce. Merde, rien. Inspiration bouche à bouche, rien. Massage cardiaque. Toujours rien, pas un frémissement. Sergueï, reviens, reviens, frérot. Défibrillateur. Un, deux, go. Allez, il a bougé. Bouche à bouche, ça y est. Il tousse, vomit toute l'eau de ses poumons. Sauvé, sauvé lui aussi. Sergueï, Sergueï, mon frère, tu m'en as fait voir des belles, hein? Comment tu te sens? Tu récupères? Pour toute réponse, entre deux quintes de touille, il me vomit dessus dans une rafale d'injures, insulte tous ces espèces de cons qui n'ont pas mis les bouteilles de secours dans l'armoire.
Ah, ils vont m'entendre, les préparateurs.
Les préparateurs, tiens, oui, c'est vraiment bizarre d'ailleurs qu'ils ne soient pas encore montés. Qu'est-ce qu'ils foutent avec la sirène et tout le bazar qu'on a fait? Ils devraient déjà être là dans les vestiaires. Sergueï, tu entends?
Quoi? Attends, je récupère. Oh là là, j'ai mal à la tête et mal aux cheveux aussi, c'est bizarre.
J'entends tourner le groupe électrogène de secours. C'est pas normal, non?
Oui, oui, c'est assez inhabituel. J'ai déjà vu une fois, mais c'était lors d'une coupure générale dans tout Odessa après un bombardement.
La porte du vestiaire ne s'ouvre pas vers l'extérieur. Elle a l'air bloquée par quelque chose. Viens m'aider si tu vas mieux. J'arrive pas tout seul.
J'arrive, allez. Oh, Is, c'est bon. Oh merde, c'est Igor et Vanessa qui sont là derrière.
Purée, ils sont morts. Et puis, tout est cassé dans le labo. On n'y voit que gouttes. Il n'y a plus de lumière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est plein de fumée.
Igor, Vanessa. Ils sont morts. Regarde, Vlad. Ils allaient mettre les deux bonbonnes de secours dans l'armoire quand ils ont été tués. Quand je pense que je les ai maudits, mais quel idiot.
Oh, c'est terrible, cet accident. Faudra appeler les secours, même si c'est trop tard pour faire quelque chose pour eux maintenant.
Incroyable. Tout est dévasté dans la pièce. Ils ont dû ne se rendre compte de rien tellement le souffle était fort. Ce sont peut-être les bouteilles de gaz ou d'oxygène qui ont explosé. Les pauvres, leurs visages sont tout déformés, tant c'était violent.
Sergueï. Je suis gelé. Il reste encore nos vêtements chauds dans l'entrée du sas. Alors avant de monter dans les escaliers, jusque dans les étages, on va voir s'il y a quelqu'un qui sait ce qui s'est passé. Et puis je vais les enfiler. Toi aussi le noyé, tu ferais bien de mettre ta parka ou un treillis ou quelque chose qui t'habille un peu.
Merci,
tout cas.
Merci. Je te dois une fière chandelle, Vlad. Sans toi, j'y restais. Encore un grand merci, petit frère. Je me sens beaucoup mieux à présent.
Ouais. T'aurais fait pareil pour moi, ça, je le sais. Allez, grimpons dans les étages, même s'il n'y a personne de là-haut, nous verrons mieux ce qui s'est passé.
J'arrive. C'est vrai que c'est terrible. Igor avec Vanessa, je suis dégoûté, quel accident idiot. Sortons sur la terrasse. Au dehors, on va pouvoir regarder. Oh mon Dieu, Odessa. Odessa, regarde, il n'y a plus rien. Plus rien qu'un tas de cendres et de ruines.
Ouais, dans l'eau du bassin, j'avais bien senti des remous inhabituels, mais de là... Avancer à une explosion pareille. Ah merde, alors ils l'ont fait. Les Russes ont fini par la faire exploser, leur fameuse bombe radioactive dont ils nous menaçaient depuis des mois. Ah oui, la bombe. Ben alors Sergueï, j'ai deux nouvelles à t'annoncer. Une bonne et une très mauvaise.
Ben commence par la bonne.
Et ben la bonne, c'est que nous sommes vivants.
Ah. Et la mauvaise?
La mauvaise, c'est que je pense que nous sommes à peu près au centre de l'explosion de cette bombe et que depuis que nous sommes sortis sur cette terrasse, on a encaissé une dose de radiation mortelle de césium-38. Dans quelques heures, nous serons morts.
Morts? Mais qu'est-ce qu'on fait alors?
Eh ben, on peut déjà plus rien faire, Sergueï, c'est trop tard. Alors, bah tiens, on va boire, Sergueï, hein. On va boire pour oublier, tiens. Et c'est le moment de sortir, tiens, ta bouteille de vodka. Tu sais, là, celle que tu cachais dans ton armoire en bas, mon cochon, hein. Celle pour les grandes occasions. Et puis, on va chanter. Tiens, connais-tu cette vieille ritournelle française qui date de, je crois, de la guerre 14-18, qui parle des lampistes, hein, comme nous. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes, car nous sommes tous condamnés, nous sommes des sacrifiés.
Merci, John.
Les plumes sur RCN, Mona.
Et merci à Benoît pour sa participation. Alors Benoît, votre roman Les baskets du Père Noël, comment vous est venue l'idée de ce roman? Qu'est-ce qui vous a inspiré l'image d'un Père Noël en basket?
Alors ça, les idées de départ, c'est toujours... On ne sait jamais très bien d'où elles viennent. En fait, au départ, c'était une nouvelle, justement, parce que j'ai écrit beaucoup de nouvelles, donc... c'était une nouvelle qui avait été publiée par, aux éditions La Dragonne il y a quelques années. Et je me suis dit, il y a même déjà assez longtemps, 7 ou 8 ans, que c'était un bon point de départ pour une histoire, pour un roman jeunesse, quoi. Mm-hmm. Donc c'est un roman qui s'adresse au lecteur à partir de 10 ans. Mm-hmm. Et donc pourquoi cette idée? En fait, j'avais envie de parler de la précarité, de la difficulté du métier de comédien, d'ailleurs, ce que je suis moi-même depuis une quarantaine d'années. Et donc, de cette situation est née toute l'histoire, en fait. Et c'est du point de vue de la fille de ce Père Noël. En fait, le point de départ, c'est un faux Père Noël devant le BHV ou devant ce type de grand magasin, donc qui attire le client pour que les gens rentrent dans le BHV en question. Et il est avec sa fille qui a 10 ans. Donc il est en costume de Père Noël et il a oublié ses bottes de Père Noël. Donc il a été obligé de mettre ses baskets jaunes et vertes. Donc c'est en ça que c'est grâce à ça ou à cause de ça qu'un de ses anciens camarades du conservatoire le reconnaît et vient l'humilier en direct devant sa fille en lui disant que lui, oui, bon bah oui, c'est vrai, Père Noël c'est quelque chose. Mais lui, pour sa part, il va jouer dans le prochain film de Tim Burton, etc. Mmh. Et donc la fille qui voit ça, qui a une dizaine d'années, qui s'appelle Blanche... dit à son père, là, l'année prochaine, pas question que ça soit toi qui fasses le Père Noël, mais en revanche, tu joueras dans le prochain film de Tim Burton. Et toute l'histoire de ce roman repose sur cet enjeu de départ. Est-ce qu'elle va réussir, avec sa copine Noémie, à faire en sorte que le papa puisse avoir un vrai rôle au cinéma et ne fasse plus le Père Noël devant le BHV, quoi.
Alors Blanche est une jeune collégienne, donc de 10 ans à peu près. Elle vit donc seule avec son père Adrien, comédien et perpétuellement à la recherche d'un petit rôle. Vous vous êtes inspiré d'une personne réelle pour le père Adrien?
Non, pas vraiment. Non, non, non. Bah non, après, c'est une somme d'un certain nombre de personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, bien sûr. Et la précarité de ce métier fait qu'il y a toujours un moment ou un autre dans cette vie de comédien, on passe par une sorte d'angoisse, va-t-on trouver du travail prochainement, etc. Lui, il se trouve qu'il est, embourbé dans plusieurs problématiques. Il y a évidemment le fait de trouver des rôles, mais il y a aussi le fait qu'il doit rembourser une dette qu'on comprend au fur et à mesure, et puis qu'il doit nourrir cette fille. Alors, donc, ils vivent tous les deux, lui et sa fille, dans une grande, grande précarité, qui est même parfois... Qui prend des proportions...
assez épouvantables, oui.
Assez inquiétantes, oui, en tout cas.
Oui, oui, oui.
Alors en plus, il est un peu maltraité, enfin pas maltraité, mais mal vu par le reste de sa famille.
Ah oui.
En lui disant, est-ce que tu vas trouver un vrai travail? Mais c'est un vrai travail, répond-il.
Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on pourrait croire des fois qu'il pourrait prendre un espèce de petit intérim quelconque pour pouvoir combler un peu les trous dans le...
Oui, comme vous dites, oui. Je précise quand même que si le sujet paraît un petit peu lourd, j'ai quand même, c'est peut-être aussi dans mon écriture habituellement, mis une certaine légèreté parfois, ou un certain humour, on va dire.
Bien sûr, on en parle.
Et des situations plutôt drôles, enfin, dans lesquelles se retrouvent, évidemment, vont-elles rencontrer Tim Burton, ces deux copines? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a un certain nombre de situations voilà, qui ne sont pas du tout scabreuses et qui sont plutôt... évidemment, comme c'est un roman jeunesse, ça se termine plutôt bien.
Oui, oui, bien sûr. Mais effectivement, elles ont beaucoup d'humour. Et Blanc, c'est une jeune fille que vous aviez en tête. Vous aviez un personnage comme ça, ou c'est la somme de plusieurs...
C'est pareil. Après, quand on prépare un travail d'écriture, il y a toujours une construction... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Il y a une construction qui se fait au départ, une structure narrative, etc.
Bien sûr.
Et puis, il y a aussi tout un... Moi, ce que j'appelle une bible, enfin, ce qui s'appelle comme ça aussi... notamment pour les scénarios de films, où j'accumule un certain nombre de données sur les personnages pour qu'ils agissent d'une manière ou d'une autre avec un petit profil psychologique, mais aussi qu'est-ce qu'ils ont comme blessure d'enfance, par exemple, etc., qui fait que le personnage agit tel qu'il agit. C'est pas du tout inspiré de gens autour de moi. Forcément, il y a toujours, il y a toujours des j'ai même moi-même des enfants, donc peut-être je m'en inspire un petit peu implicitement. Mais c'est pas du tout de l'autofiction, ni de l'autofiction, ni de la description de personnes de mon entourage. Quoi.
Oui. Parce que ça doit être compliqué de se mettre un peu dans la tête d'une gamine de 10 ans.
Ben oui et non, hein, c'est aussi le travail d'écriture, hein, j'ai toujours fait ça, que ça soit dans les écritures théâtrales ou romanesques, que ça soit pour les adultes ou pour les enfants, de me mettre effectivement dans la peau du personnage. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est important aussi que de pouvoir se mettre à la place du personnage et de voir les choses avec les yeux du personnage. C'est ça qui me paraît justement intéressant dans ce travail d'écriture. Et ce qui fait que... Puis bon, on est tous passés par cet âge-là. Ça m'arrive aussi... En plus, c'est une fille. Donc ça m'arrive aussi de me mettre dans la peau de personnages féminins. C'est bon... ou de... Il me semble que c'est ça l'intérêt de l'écriture. Enfin, je vais pas...
Mais en même temps, je veux dire, il faut quand même connaître bien les enfants pour savoir ce qu'ils peuvent dire ou pas dire. Parce que de mettre des mots dans la bouche d'une gamine de 10 ans, je veux dire, c'est pas comme mettre des mots dans la bouche d'une jeune fille de 18 ans. Hein, il faut savoir doser, en fait, leur maturité, leur...
Alors, c'est sûr, il se trouve que j'ai souvent l'occasion de rencontrer toutes sortes de publics, de par mon métier et de par mes différentes activités, et notamment en termes d'écriture. Il m'arrive très souvent de rencontrer des collégiens, notamment, mais pas que, hein, des élèves aussi de primaire. Ça m'arrive aussi très souvent d'animer des ateliers d'écriture, que ce soit avec des collégiens ou des lycéens. Je rencontre aussi, j'ai eu l'occasion souvent de rencontrer les copains, copines de mes enfants, ce qui fait qu'il y a aussi de toute façon, dès qu'on écrit, il faut une certaine forme d'écoute de ce que racontent les uns et les autres. Alors en plus, il y a aussi... Ce roman, il a été écrit... la première version en nouvelle pour les adultes a été écrite il y a une quinzaine d'années. Donc obligatoirement, aujourd'hui, il y a une réévaluation du vocabulaire. Comment les réseaux sociaux, tout ça qui n'existait pas il y a 15 ans, quasiment
voilà,
pas.
Donc
comment se comporte aujourd'hui un enfant qui est en 6e ou 5e par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui l'entoure, etc. Quoi. Et ça m'intéresse toujours d'avoir cette vision des enfants. Là, je suis en train de préparer un nouveau roman jeunesse aussi, pour moi, un autre éditeur, là, avec Le Seuil, qui parle de la chasse. Et donc, il sera publié, je pense, au mois de mai. Et là, la première scène, qui est une sorte de prologue, c'est vu du point de vue du sanglier, enfin de la laie qui est chassée. Donc, c'est aussi un point de vue dans lequel on s'immisce, on imagine quelque chose. Comment est-ce que... On se met toujours à la place du personnage. Comment moi, je réagirais si j'étais le personnage, là, en l'occurrence, du sanglier.
Oui, donc, mais enfin, la personne ira vous chercher des noises pour...
Savoir
pour
si vous... j'ai bien pensé.
Oui, si vous avez
bien
pensé.
Sanglier.
Voilà.
Alors, Adrien, c'est quand même un personnage fantasque, un battleurné. Il adore sa fille, mais n'empêche que, quelquefois, Blanche, elle est désappointée, quand même, par son père.
On se demande qui est l'adulte et qui est l'enfant dans cette histoire.
C'est ça.
C'est vrai que lui, il a gardé... Bon, il n'arrête pas de lui faire des sketchs tout le temps, de la faire rigoler. Elle se marre beaucoup, ils rigolent beaucoup tous les deux. Mais à un moment, elle dit, mais papa, on rigole, mais là, comment on paye le chauffage à la fin du mois, ou comment tu payes le loyer, oui, oui, mais je vais trouver des trucs. Et puis, en fait, il finit par toujours trouver quelque chose. Il va faire des animations dans les supermarchés, etc. Donc, il fait Mickey à Michel-Ange. Enfin, bref, il cumule. Et puis, finalement, au cours de l'histoire, il finit quand même par trouver un vrai rôle et avec une vraie tournée de théâtre et tout. Et là, il commence à redorer un petit peu son blason.
Oui, oui.
Puis à ses propres yeux.
Oui, c'est ça. Il revit lui-même. Hein,
ouais, parce qu'elle, elle est sûre de son talent et de ses capacités. Simplement, elle explique très, très vite au début du roman, par exemple, il est tout le temps en retard.
Oui.
Donc, c'est un vrai problème, quoi. Même pour elle, quand elle était plus jeune, en fait, il faut tout le temps qu'elle justifie le retard de son papa, etc. Donc, bref, c'est un personnage assez fantasque, mais qui est plutôt sympathique, je pense.
Bien sûr. Alors, vous faites dire à Blanche, en le voyant aujourd'hui, donc son père, tenter d'exercer son métier, je me dis qu'il faut peut-être garder un petit bout de Peter Pan au coin de sa tête, sinon l'existence serait aussi grise que le mur en face de ma fenêtre. C'est une phrase que vous pourriez reprendre à votre compte ? Il faut garder un petit...
Je pense, pour avoir depuis plus de 40 ans fait ce métier à la fois de comédien, metteur en scène et beaucoup... j'ai écrit très nombreux textes de théâtre, des romans jeunesse, des nouvelles, etc., des scénarios de films. Je pense qu'il faut garder cette petite flamme qui fait que... Parce que les choses sont très grises autour de nous.
Bien sûr.
Donc c'est vrai que l'avantage de cette activité... professionnel, m'a toujours permis effectivement d'avoir toujours cette petite porte de sortie vers l'imaginaire, et puis aussi même, je pense, c'est une démarche personnelle, hein, où il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler grâce à l'écriture, sans pour autant que ce soit une écriture auto-fictionnelle, mais malgré tout, d'aborder des sujets qui nous tracassent, qui nous tiennent à cœur, ça permet aussi de s'engager, d'affirmer sans aucune contrainte extérieure, un certain nombre de choses qu'on a envie de dire, quoi. Alors évidemment, après, il y a tout le travail avec les éditeurs, etc. Mais malgré tout, on a une grande, grande liberté. Et on peut aussi partir à l'aventure devant sa feuille et dans son écriture.
Oui. Alors dans votre roman, vous abordez le sujet de la précarité dont on parlait tout à l'heure, et notamment celle de certains artistes, sujet très peu abordé en littérature jeunesse. Alors pourquoi aborder ce thème ? Pour prévenir les apprentis artistes que ce n'est pas si facile que ça, la vie ?
Non, non, il n'y a aucun projet d'un message à délivrer à qui que ce soit. C'est pour raconter une histoire. Mais je pense que ça parle de la précarité au sens plus large.
Oui.
Que, évidemment, j'ai choisi cette activité-là parce que je la connais bien.
Mm-hmm.
Mais pas sous ce biais-là. J'ai jamais fait le Père Noël devant le BHV, ni Casimir chez Auchan. Ben non, ouais. Ça manque peut-être. J'aurais pu le rajouter dans mon CV.
Oui, oui, ça frappe quand même.
Ouais, et non, c'est plutôt pour parler de la difficulté de la vie d'aujourd'hui quand on n'a pas, quand on se retrouve dans des situations de précarité, celle-là étant finalement une situation parmi d'autres.
Mmh.
Et c'est pas du tout pour prévenir les uns et les autres. Je crois que c'est aussi pour... je pense que c'est important, même dans la littérature jeunesse, dans mon précédent roman dont on avait déjà parlé, L'Aïda la Bleue, parlait beaucoup de la situation du climat, etc. Il me semble important de, non pas d'alerter, mais de raconter le monde tel qu'il est, mais avec des fenêtres d'espoir. Dans la littérature jeunesse, en tout cas, c'est ce que je m'efforce de faire,
oui.
Pour dire toujours que oui, le monde, il est assez moche en ce moment, mais il y a peut-être des choses qui peuvent s'améliorer sans du tout asséner quoi que ce soit comme leçon de morale ou simplement dire, voilà, il y a des fenêtres d'espoir à droite et à gauche, il faut les saisir ou pouvoir les s'en servir pour aller voir le monde qui pourrait être meilleur. Quoi.
Ce qui est bien quand même dans notre métier, c'est qu'on est des marchands de bonheur. Et ça, c'est extraordinaire. Les endroits où on va, quand on joue un spectacle, on donne du bonheur aux gens. Enfin, on essaye, en tout cas.
Bien sûr, mais bon, pas tout le monde ne donne pas du bonheur. Il y a certains écrivains qui écrivent des choses très, très sombres, donc c'est pas...
Oui, mais c'est aussi une forme de bonheur. C'est pas parce que c'est désespéré que c'est pas intéressant.
J'ai pas dit que c'était pas intéressant. Je me dis, mais c'est pas des fois, quand on referme certains livres, c'est pas du bonheur qu'on a ressenti à la lecture.
C'est vrai, oui, c'est vrai aussi. Oui.
En même temps, la littérature a aussi pour objet important d'être un reflet du monde.
Bien sûr.
Et chaque époque, d'ailleurs, a son lot de textes qui permettent aussi d'avoir un témoignage fictionnel du monde dans lequel on vit. Et c'est pas non plus inintéressant, au contraire.
Non,
c'est,
bien sûr.
Que ça soit sombre ou pas, d'ailleurs.
Oui. Alors, dans votre roman, c'est quand même l'humour qui domine. On s'amuse bien.
Ben, j'espère.
Oui.
Je sais pas où dire le contraire.
Mais honnêtement, si, on s'amuse bien. Et je pense que c'est un roman que les parents pourraient lire. Ça pourrait peut-être un peu fluidifier la compréhension, je sais pas.
En tout cas, c'est les retours que j'en ai. Il est tout récent, il est sorti il y a un mois, donc... Mais c'est le retour effectivement que j'en ai, mais tout comme pour Ida la Bleue, je pense que la littérature jeunesse, pour qu'elle intéresse les jeunes lecteurs, il faut aussi qu'elle intéresse les adultes. Mm-hmm. C'est souvent eux d'ailleurs qui choisissent le livre, mais il faut aussi que l'adulte puisse s'y retrouver, qu'il puisse même y avoir mais comme au théâtre, j'ai toujours fait ça, qu'il puisse y avoir un niveau de lecture qui touche les adultes, qui ne touchent pas forcément directement l'enfant, mais dont ils peuvent après reparler. Bien sûr. Puis les enfants, de leur côté, sont aussi touchés par des choses que les adultes ne comprennent pas toujours. Mm-hmm. Donc il faut arriver à être un petit peu, sans être démagogique, mais il faut arriver aussi à construire une histoire qui fait qu'il y a une forme de suspense qui peut aussi intéresser les plus grands. Donc voilà, c'est tout ça que j'essaye de rassembler, que ce soit dans un roman jeunesse ou dans un roman adulte d'ailleurs. Mm-hmm.
Alors, la couverture est très, très attirante, je pense, pour les enfants. Vous voulez nous en parler un petit peu? C'est une artiste que vous connaissez?
On voit le Père Noël, mais le bas du Père Noël, oui. On va dire, à partir de la ceinture, un peu plus haut que la ceinture. On reconnaît bien que c'est un costume de Père Noël. Et en bas, il a des baskets.
Jaunes.
Rouge, non, plutôt vert et jaune. Voilà.
Jaune, oui.
Il y a quand même des bandes vertes. C'est vous qui avez choisi cette couverture?
C'est l'éditeur qui l'a choisi, puis qui me l'a proposé. Puis bon, on a convenu ensemble que c'était plutôt marrant. Quoi. Donc
oui,
ça reflète aussi le côté un peu léger quand même. Oui. Enfin, léger, je veux dire, effectivement, où j'essaye de faire preuve d'un certain humour. Quoi.
Oui, bien sûr. Alors, vous étiez venu il y a quelque temps pour un autre roman, Martha, qui a vécu sa vie propre depuis. Vous voulez nous en parler?
Oui, alors Martha, c'est un roman qui est paru en juin 2023, donc il y a un an et demi maintenant, et qui parle du syndrome de Diogène. On en avait parlé, effectivement, j'étais venu déjà vous voir pour ça. Le syndrome de Diogène, c'est les gens qui gardent tout chez eux. J'explique pour ceux qui ne connaîtraient pas.
Ça peut servir.
Et en fait, je me rends compte depuis un an et demi que ce livre est paru, et j'ai fait pas mal de salons, de librairies, de rencontres, etc., qu'il y a plein de gens qui connaissent quelqu'un qui est atteint de cette maladie. Je précise que ce n'est pas non plus du tout une autofiction. C'est quelqu'un qui m'avait parlé de ça, et je me suis dit que c'est un matériau éminemment romanesque. Évidemment, le personnage qui doit aller ouvrir cette maison et la vider découvre tout un tas de vies de cette tante Martha qu'il n'avait pas vue depuis 30 ans et qui est pour lui une véritable révélation. Et donc effectivement, ce roman qui a plutôt bien marché, puisque là l'éditeur annonce qu'il réimprime, donc ça veut dire qu'il a vendu un premier lot, donc qui vient d'être marqué, je suppose que c'est ça que vous
voulez,
qui vient d'être finaliste d'un prix. Il n'a pas eu le prix, il n'a pas eu, malheureusement, mais finaliste du prix hors concours. C'est un prix qui est décerné à des ouvrages issus des maisons d'édition totalement indépendantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grosses maisons d'édition. Ce qui est intéressant, c'est que ça parle justement de toute cette littérature qui est publiée par plein de petites maisons d'édition, petites entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, qui font tout un travail justement j'ai envie de dire de repérage, mais c'est pas tout à fait ça, qui font la promotion d'auteurs et d'autrices pas forcément identifiés dans les gros médias. Donc ça permet de faire découvrir tout un tas de maisons d'édition. Alors ce prix hors concours, il y a même un double prix, puisqu'il y a aussi un prix des lecteurs, hein, donc qui votent. Donc ça part, je crois qu'ils sélectionnent 75 romans, puis il y a une première sélection de 40, et puis après une autre sélection de 5 finalistes. Et donc, parmi ces 5 finalistes, il y avait donc Martha, Et le prix a été remis mardi dernier, donc à la Maison de la Poésie à Paris. Mmh. Et le jury compte un journaliste du Monde, un journaliste de la Grande Librairie, etc. Donc, ce qui est intéressant et flatteur pour son ego, c'est que le roman a été quand même sélectionné par ce jury des médias assez importants. Donc, ça lui permet une deuxième vie.
Oui, oui. C'est vrai que c'est toujours intéressant.
Tout à fait.
Je vais vous demander, l'écriture pour vous, c'est quoi ? Un moyen de s'évader ? Un besoin ?
C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est presque, quand on commence à se mettre à écrire, moi ça fait très très longtemps que j'écris, il y a quand même un besoin de alors effectivement de s'évader, puisque on vit avec nos personnages quand c'est un roman, pendant un certain nombre de mois.
Bien
quand
sûr.
Même. Mais il y a aussi ce moyen personnel de dire des choses qu'on ne dirait pas forcément, ou plutôt pour mon cas personnel, de me servir de la fiction pour raconter des choses plus personnelles.
D'accord.
Mais c'est toujours... Il n'y a rien de... Comment dire comme j'ai dit plusieurs fois, d'autofiction dans mes histoires, mais ça me permet quand même d'exprimer un certain nombre de choses que j'ai envie de raconter.
Mm-hmm.
Il y a comme un besoin, effectivement, aussi de quand je n'ai pas écrit... Là, je sors de 3 mois de travail intensif autour d'un festival de la nouvelle, justement, qu'on anime à Nancy.
Oui.
Pendant 3 mois, donc j'ai pas du tout pu trouver 5 minutes pour écrire quoi que ce soit. Donc là, ça me manque un petit peu, je peux enfin m'y remettre.
Quoi. D'accord.
Donc il y a une forme de besoin. Oui.
Alors votre projet d'écriture, là, vous en avez vaguement parlé, un projet littérature jeunesse encore ?
Alors entre-temps, alors ça sortira je pense au mois de mai, donc il est en cours de réécriture, je reçois les notes de l'éditeur.
Mm-hmm.
Donc ça paraîtra donc ça effectivement en mai. Mais entre-temps... Comme j'écris aussi beaucoup de nouvelles, donc j'ai fait un recueil de nouvelles il y a un peu moins d'un an qui s'appelle Indéfectible, je crois que j'étais venu aussi en parler.
Oui.
Donc un recueil de 20 nouvelles publiées aux éditions La Lanterne, une édition lyonnaise, et qui me propose de rééditer les 3 premiers recueils que j'ai faits aux éditions La Dragonne, qui sont aujourd'hui épuisés. Pas les
recueils, oui.
Pas l'éditeur.
Enfin, l'éditeur est si aussi épuisé parce qu'il arrête son activité, La Dragonne. Donc, ces ouvrages sont de nouveau disponibles. Et donc, cette éditrice m'a proposé de les rassembler tous les trois et d'en faire une réédition. Donc, il y en a certains textes vont disparaître. On a décidé de ne plus les remettre parce qu'ils dataient des années 2000, ils n'avaient plus. Et puis, tous les autres ont été retravaillés quand même, certains même redéveloppés. Donc, il y a vraiment. C'est plus qu'une réimpression, c'est une réécriture de ces. Donc, il y avait 30 nouvelles, il en restera 27, je crois. Donc, et ça paraîtra au mois de mars.
D'accord. Ah, voilà. Écoutez, on aura l'occasion de se revoir
à ce
moment-là.
Au moins 2 fois. D'autres choses en chantier, évidemment, mais ça, c'est pour la suite.
Alors, merci à Nathalie Rouillard d'être venue nous parler de son recueil de nouvelles, L'univers des sens, publié aux éditions Rebeline. Merci à Benoît Fourchard d'être venu nous présenter son roman Les baskets du Père Noël, publié aux éditions du Jasmin. Merci à John Bullitt qui nous a fait la lecture de sa nouvelle Oxygène, avec l'aide de Benoît, bien sûr. Merci à Joris qui était à la technique aujourd'hui. Et nous nous quittons avec J'aurais voulu être un artiste, interprété par Nicole Croisy. Au revoir à tous et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
T'as du succès dans tes affaires, t'as du succès dans tes amours, tu changes souvent de secrétaire. T'as ton bureau en haut d'une tour, la ville à l'envers, d'où tu contrôles ton univers. Tu passes la moitié de ta vie en l'air, entre New York et Singapour, tu voyages toujours en première. T'as ta résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Tu peux pas supporter la misère. Pas heureux, mais t'en as l'air. T'as perdu le sens de l'humour depuis que t'as le sens des affaires. T'as réussi.
pas ce que t'aurais voulu faire. T'aurais voulu être un arrêtiste pour pouvoir faire ton numéro. Quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam ou à Rio, t'aurais voulu être un chanteur.
T'aurais voulu être un...